France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Fanny Richet, Anouk Milliot et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. Des coupures d'eau et d'électricité, des patientes mortes à l'hôpital public, des privilèges qui subsistent pour les élites et leurs enfants. Du Maroc au Népal, les mêmes maux sont dénoncés depuis 2 semaines. Nous commençons ce matin une longue série en 8 épisodes qui nous mènera d'abord cette semaine à Madagascar, en Indonésie, au Bangladesh et ce matin au Maroc avec l'autoproclamé Gen Z 212 qui manifeste depuis le 27 septembre.
On demande simplement plus d'écoles et plus d'hôpitaux. Nos exigences n'ont rien d'extravagant, ce sont des besoins vitaux pour nous et pour le Maroc. Comment est-ce que ce gouvernement peut à ce point manquer de compréhension? Qu'est-ce qu'il fait pour nous aider? Et Aranouche, à part parler, que fait-il? Nos revendications sont vitales pour l'avenir du Maroc. Il nous faut des hôpitaux et des écoles.
Nous ne voulons ni compétition de foot, ni rien d'autre. Si le football nous avait offert une vie meilleure, cela se saurait, et la jeunesse en aurait déjà profité. Mais nous voulons autre chose, nous voulons la santé. Nos parents souffrent.
Génération Z, X. Peu importe qu'il s'agisse de la génération Z, X ou Y, moi je me présente ici en tant que jeune homme dans ce pays. Et je ne parle pas de revendications, c'est honteux de les appeler ainsi. Ce sont juste des droits, et des droits basiques, comme l'éducation et la santé.
À l'hôpital d'Agadir, où 8 femmes sont mortes en septembre alors qu'elles venaient pour mettre leur enfant au monde, les médecins alertent depuis longtemps sur le manque de personnel et le délabrement des lieux. 250 patients par jour aux urgences et seulement 4 internes et 1 urgentiste agrégé pour les prendre en charge. Une pharmacie en pénurie récurrente d'analgésiques, d'antibiotiques ou d'anesthésiants, des douches inexistantes à l'hôpital à part à la maternité et des chats errants qui s'installent sur les lits des patients et que personne n'a ne serait-ce que le temps de chasser. Ces nombreux témoignages et la litanie des drames de ces jeunes femmes mortes après une césarienne ont d'abord rassemblé devant les grilles de l'hôpital quelques dizaines de manifestants, puis quelques centaines, et ce sont progressivement des milliers d'immobiles qui n'ont plus résisté aux hommes et femmes en mouvement. Les taciturnes ont rejoint ceux qui osaient élever la voix, et des cortèges immenses ont finalement tenté de se faire entendre, y compris des touristes, ceux pour qui tout est mis en place pour qu'ils ne voient ni n'entendent. Le mouvement s'est autoproclamé mais Gen Z 212, 212 pour l'indicatif téléphonique, Gen Z parce que beaucoup sont très jeunes, 70% seraient même mineurs d'après le gouvernement marocain, lequel est directement visé dans les slogans. Des hôpitaux, pas des stades, demandent ces manifestants de plus en plus épars, il faut le dire, ces derniers jours, mais qui ne supportent pas de voir en face des hôpitaux ou des écoles en plein délabrement se construire des équipements flambant neufs pour les prochaines grandes compétitions de foot international. Bonjour Walid Cherkaoui.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, au CNRS Paris 8, vice-président de l'association Relais Prison Société. Vous avez été un temps vous-même impliqué dans la section française de la Gen Z 212. Vous en êtes aujourd'hui davantage un observateur, mais vous aurez l'occasion de nous raconter tout ça. Bonjour Nadia Hachimi Alaoui.
Bonjour.
Merci beaucoup également d'être avec nous dans Culture Monde. Vous êtes enseignante chercheuse en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat, où vous vous trouvez en ce moment. D'abord, Nadia Hachimi Alaoui, derrière ce chiffre de 8 femmes mortes cet été à la maternité d'Agadir, et une 9e d'ailleurs début octobre, quelles histoires les enquêtes en cours, car certaines enquêtes ont été ouvertes et y compris par les autorités, quelles histoires ont-elles raconté de ces 8 femmes qui étaient venues pour accoucher? Est-ce qu'elles ont manqué de soins, de personnel, de temps?
Alors, vous le rappelez très justement, ces 8 femmes, et
un neuvième cas. En fait, sur les 8 femmes, les enquêtes sont en cours, vous l'avez rappelé, mais le neuvième cas, les manifestations ont aussi obligé, et ça on peut le saluer, à rendre plus transparent les diagnostics et les cas en cours. Donc le cas de cette neuvième femme laisse entrevoir ce qui a pu se passer pour les suivantes et elle met en relief un paradoxe. Ce qui se passe, c'est effectivement des jeunes femmes qui viennent de centres ruraux, qui sont pas forcément à Agadir même, et qui se rendent à l'hôpital pour accoucher. Des centres de proximité ne fonctionnent pas, dysfonctionnent quand ils existent. Souvent, ils n'existent pas d'ailleurs dans tous les petits coins reculés. Et le fait qu'elles ne soient pas prises en charge immédiatement, elles arrivent aux urgences à l'hôpital et c'est souvent soit trop tard, soit effectivement, on n'a pas assez d'équipement ou de matériel en cours. J'insiste sur ça parce que c'est tout le paradoxe, le drame de ces jeunes femmes, entre d'un côté un effort considérable qu'a fait le Maroc ces 20 dernières années pour réduire la mortalité maternelle, ça a baissé de 70% entre-temps, la réduire par la construction d'hôpitaux, la construction d'hôpitaux et de centres de santé, et de l'autre côté, des poches terribles qui se maintiennent d'asymétrie très forte, hein, où on n'a pas assez d'équipement, on n'a pas assez de… En fait, la mortalité maternelle, ces accouchements, il vous faut du personnel en place, il vous faut du sang, des centres de transfusion. Et donc, dans ces coins reculés, dans les centres, la périphérie d'Agadir, ces femmes, à peine ont-elles le temps d'arriver, que c'est souvent trop tard. Donc, vous voyez le paradoxe entre, d'un côté, des efforts qui sont mis en place dans des grandes villes, et de l'autre, des poches de grandes défaillances de l'État.
Avec des centres de santé ou des hôpitaux, en effet, qui ont ouvert ces dernières années, beaucoup néanmoins sont privés. Il y a une très grande privatisation des services de santé. On va en parler puisque ça a vraiment cristallisé les colères et d'où le slogan aujourd'hui des hôpitaux, pas des stades, parce que en attendant, et y compris à côté de la maternité d'Agadir dont on parle ce matin, des stades flambant neufs sont construits pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en décembre ou la Coupe du Monde de foot qui aura lieu en 2030 et que le Maroc co-organise avec l'Espagne et le Portugal. Alors, Walid Cherkaoui, comment cette information, ces 8 femmes mortes les unes après les autres, et une 9e en effet début octobre, comment cette information a circulé jusqu'à créer cette mobilisation d'abord à Agadir, vraiment devant les grilles de l'hôpital, et puis ensuite bien au-delà de cette métropole littorale du Sud?
Écoutez, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase à ce moment-là. Vous l'avez très bien rappelé, il n'y avait pas que des jeunes, en fait, à ce moment-là, devant cet hôpital, mais pas mal d'autres personnes d'âge différent. Et puis, il y a eu la création de ce mouvement qui, à titre personnel, je dirais que je pensais au début que c'était un média. Et puis finalement, vu le temps qui passe, là on a compris que quelque chose était en train de se structurer et puis finalement il y a eu la mise en place de ce dispositif, ce serveur Discord qui a permis justement la mobilisation de tellement de membres. Et juste avant de commencer cette émission, on était près de 207 000 et quelques membres sur le Discord marocain et un peu moins de 600 dans le serveur Discord français.
Discord, c'est cette plateforme de messagerie communautaire qui, à l'origine, est dédiée aux jeux vidéo pour que ceux qui jouent aux jeux vidéo jouent en ligne, puissent échanger en vocal ou par texte. C'est un peu comme Telegram ou WhatsApp. Des gens créent des groupes sur Discord, ça s'appelle des serveurs. Il y a des administrateurs qui créent le groupe, mais ensuite, tout le monde peut discuter, y compris par messages vocaux d'ailleurs. Alors, il y a un YouTuber, au départ, une association aussi, qui ont appelé à la mobilisation, Mohamed Reda Taoujni. Quelques dizaines de personnes au départ répondent à son appel à se rassembler devant l'hôpital. C'est ensuite, une fois, si j'ai bien compris, Walid Cherkaoui, que les forces de l'ordre commencent à intervenir, que le mouvement fait tache d'huile. C'est-à-dire que plutôt que dissuader les jeunes de venir manifester, l'intervention des forces de l'ordre va plutôt attiser les colères.
Écoutez, en tant qu'historien du temps présent, il m'est un peu compliqué d'effectuer, en tout cas d'esquisser une histoire immédiate de ce mouvement, parce que les sources manquent, il faut les chercher, il faut les comparer. Mais en tout cas, on peut dire que les premières manifestations ont eu lieu dans de grandes villes. Vous avez cité l'exemple d'Agadir, mais aussi de Casablanca, Tanger, etc. Et ce n'est qu'après quelques jours. Et c'est là, en fait, qu'on a véritablement senti cette réponse très autoritaire, très punitive, de la part des autorités, dans des villes où, en tout cas, de moins grande densité. Et c'est là que les violences policières se sont faites véritablement sentir.
Ce qui n'empêche pas, dans les salons vocaux en ligne notamment et par messages vocaux sur Discord, de voter pour la reconduction du mouvement du jour au lendemain et fixer les lieux de rendez-vous. Par exemple, le 29 septembre à Rabat, dans la grande ville marocaine, parce que le mouvement est d'abord parti des grandes villes avant de gagner les villes moyennes. Walid Cherkaoui, qu'est-ce qu'on peut dire du peu que vous en avez compris, puisque vous rappelez que vous êtes, comme vous dites, historien du temps présent, mais on a l'impression qu'au départ, ce qu'on entendait dans les cortèges, y compris dans les médias, c'était plutôt des jeunes Marocains qui suivent des études ou s'apprêtent à le faire, parce que beaucoup sont très très jeunes, qui pour certains parlent anglais, français.
C'est ça. En fait, durant ces premières manifestations qui ont eu lieu dans ces grandes villes, eh bien, c'était un certain type de profil sociologique de jeunes qui ont investi la rue. Vous avez commencé à l'esquisser. Ce sont des jeunes qui ont un certain niveau intellectuel et qui aussi étaient, disons-le d'emblée, primes engagés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de passé militant, ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et s'il y a eu réponse autoritaire de la part des autorités à ce moment-là, c'est parce que notamment, je pense qu'il n'y a pas eu de déclaration faite au préalable de la part de ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de sortir et puis ils sont sortis. Donc voilà, c'est ce qui leur manquait un tout petit peu. Et puis bon, voilà, les choses se sont passées un peu autrement. La violence s'est véritablement fait sentir dans ces petites villes où il y a eu des cas de décès. On a tous eu quelques vidéos qui sont vraiment très très désagréables à voir, où des voitures de police percutent des manifestants à Oujda notamment.
Choquant. Ouais. Voilà. On sait aujourd'hui le nombre véritablement de morts qu'a fait cette répression?
Alors, on était au début à 3 morts, et puis entre-temps, un jeune qui a été blessé a succombé justement à ses blessures, ce qui fait porter pour le moment le bilan à 4 morts.
Nadia Hachimi Alaoui.
Oui, juste pour revenir sur un point, parce que c'est intéressant comment le mouvement est descendu de Discord dans la rue. Vous évoquiez la répression autoritaire. En fait, quand il y a une conjonction de facteurs, s'il y a eu cette étincelle qui a été cette tragédie d'Agadir, et il y a eu quelques appels, il y avait déjà des manifestations locales. Il y a eu quelques appels sur Internet, notamment une association absolument inconnue. Mais c'est la dimension de ce qui se passait à l'international, avec la plateforme Discord, vous l'avez rappelé, les manifestations ailleurs, qui ont donné ce moment d'opportunité. Le samedi, maintenant on a les chiffres, le samedi, quand il y a eu appel à descendre dans la rue, vous aviez 1600 Marocains, des chiffres qu'a donné le ministère de l'Intérieur et qu'on revoit, qui étaient assez peu finalement le samedi. Ce qui a donné une ampleur et une mobilisation très forte, en fait, c'est le moment d'adhésion, parce que là, les sécuritaires ont été pris de court. Ils n'avaient absolument jamais rencontré. En fait, vous savez, quand vous devez manifester au Maroc, vous devez être incarné physiquement. Vous devez déposer un droit de grève. Or là, on a eu des situations ubuesques les 3 premiers jours, et c'est ça ce qui a construit l'adhésion au mouvement, où on a eu dans les 3 premiers jours une répression autoritaire, une répression qui passait justement par l'interdiction, parce que sur le plan légal, c'était interdit. Et donc là-dessus, s'est greffé les casseurs. Mais ce qui est intéressant, et vous parliez des stades, c'est que moi, c'est là où je retiens la particularité de ce mouvement, c'est l'adhésion massive, même si elle ne s'est pas traduite dans la rue. C'est que ces jeunes ont mis en lumière un décalage, une asymétrie, finalement, que beaucoup de Marocains ne comprennent pas. Et donc, ça dépasse la question Gen Z ou autre. C'est ce paradoxe entre un État hyper efficace quand il s'agit de construire des infrastructures et, dans le même temps, un État totalement inefficace quand il s'agit d'organiser les services publics.
Et notamment
donc,
le stade.
Cette conjonction-là.
Ouais. Le stade à côté de l'hôpital d'Agadir, il a été édifié très rapidement, au prix en plus d'expulsion de riverains. Mais par ailleurs, c'est vrai que tout s'est fait très vite. Et Walid Cherkaoui, en préparant l'émission, nous rappelait que par ailleurs, ce stade flambant neuf, il va comprendre des installations médicales dernier cri pour soigner les joueurs sur place, qui a encore suscité cette incompréhension.
Alors,
et cette totale colère.
Aujourd'hui... Tout à fait, mais aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de projections sur ce qui va se passer sans qu'on ne le sache, parce qu'il n'y a absolument aucune déclaration ou autre. Mais effectivement, je pense que cette asymétrie-là, voyez, ces paradoxes-là, a permis, justement, dans un contexte de dégradation économique ces 4-5 dernières années, vous parliez des grandes villes, c'est essentiellement dans les villes assez marginalisées où on a eu les manifestations et surtout on a eu des casseurs et des violences dans les centres périphériques d'Agadir, dans les régions marginalisées type autour d'Oujda, d'accord, où effectivement ces manifestations ont mis à jour cette incompréhension totale qu'on a au Maroc sur ces asymétries de mode de gestion et sur lesquelles se greffent évidemment des mécontentements autour de l'éducation et de la santé. Mais on y reviendra parce que c'est un petit peu plus compliqué que la santé privée ou publique.
Allons-y quand même, parce que c'est quand même très intéressant, Nadia Hashimi Alaoui. D'abord, cette colère n'est pas sortie nulle part, c'est aussi le fruit d'une accumulation de colère sociale depuis des années. On a vu dans les cortèges des personnes qui avaient été touchées par le séisme de 2023 qui n'ont toujours pas été relogées, par exemple. Il y a eu cet été, en juillet, dans l'Atlas, dans les vallées les plus encaissées, les plus reculées, des gens qui ont marché pendant des jours et des jours sur des kilomètres et des kilomètres parce qu'il n'y a pas de transport public pour aller demander à la la préfecture, l'établissement d'eau courante. Enfin, voilà, il y a des colères qui s'accumulent depuis des années. Sur la santé, néanmoins, c'est quand même très intéressant de comprendre comment fonctionne le système marocain de la santé. Après la mort de ces 9 femmes, le ministère de la Santé a ouvert une enquête, a annoncé un peu plus tard suspendre tous les responsables de l'hôpital d'Agadir, donc son directeur provincial, la directrice régionale de la santé. Il a nommé un nouveau directeur, le docteur Benzerouane, qui fait montre de bonne volonté, mais ne peut faire qu'avec les moyens qu'on lui donne. Walid Cherkaoui, dans quelle mesure aujourd'hui le secteur de la santé au Maroc est largement privatisé, avec un fossé qui peu à peu s'est creusé entre les hôpitaux privés et les hôpitaux publics?
Je pense qu'on peut faire remonter cette situation de privatisation aux années 80, durant lesquelles le Maroc vivait déjà une sorte de crise sociale et politique. Et c'est ce qui avait amené le pays à lancer, sous les directives du FMI, du Fonds monétaire international, voilà, ces programmes d'ajustement structurel, ces PASS, qui ont fait qu'il y a eu progressivement une privatisation de ces secteurs clés de la société que sont la santé et l'éducation. Aujourd'hui, c'est très flagrant parce que, bon, voilà, il y a un développement tel...
Oui, on va vous entendre, Nadia Hashimi Alaoui. Je laisse juste Walid Cherkaoui terminer. Oui, un développement de la... Parce qu'on voit aujourd'hui, quand des cliniques ou des hôpitaux ouvrent, beaucoup plus d'établissements privés n'ouvrent que de publics. Et d'ailleurs, les établissements publics ont plutôt tendance à fermer, même si ça reste assez rare. Je crois que 1% seulement, le nombre de lits dans les hôpitaux publics a diminué d'1% quand celui dans les cliniques privées augmenter de 50%.
Eh bien, tout simplement, je pourrais dire que le tiers des capacités d'hospitalisation au Maroc relève du privé. Mmh. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une logique de développement de ce phénomène de privatisation qui a commencé au moins à partir des années 80.
Nadia Hashimi Alaoui, vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet, sur ce phénomène de concentration des actifs aux mains de grands groupes spécialisés dans la santé. Acdital, par exemple, leader marocain des cliniques privées, qui a fait son entrée à la bourse de Casablanca en 2022 avec 4,5 milliards de dirhams, c'est environ 415 millions d'euros de souscription. C'était 4 fois plus que le montant dont il avait besoin. Qu'est-ce qu'il faut en dire aujourd'hui de cette concentration des actifs qui est dénoncée dans les cortèges? Le nom d'Acdital, il revient souvent.
Oui, parce qu'il symbolise effectivement. Alors, la question de la santé et de la privatisation, elle est très particulière depuis ces 5 dernières années, après le Covid, où on a eu une marchandisation forte de la santé avec la possibilité qui a été donnée à des acteurs financiers d'investir dans la santé, ce qui n'était pas le cas avant 2019. Avant 2019, c'est sous le gouvernement des islamistes. Et donc là, vous avez vu la montée et l'émergence de grands groupes privés financiarisés, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et là, vous avez tout le paradoxe. Entre, d'un côté, un effort massif de l'État avec la généralisation de la protection sociale et une incapacité totale de cet État à mettre à niveau son système public. Et donc, en parallèle, vous avez eu l'émergence de ces groupes privés qui ont été les premiers bénéficiaires, justement, de cette généralisation de la protection sociale. C'est ces défaillances-là, la défaillance de l'action publique dans sa capacité à mettre à niveau le personnel de santé, à recruter, à réformer dans la santé, à faire que sa réforme puisse enclencher un changement, parce qu'on a une grande réforme qui est enclenchée, mais qui a connu aussi beaucoup de résistance et qui fait que vous arrivez à un paradoxe où l'État met énormément d'argent dans la protection sociale, dans la construction des hôpitaux, incapable de pouvoir mettre à niveau, recruter, former du personnel, dans un contexte où le privé se voit complètement transformé ces dernières années avec sa capacité à attirer des financements privés, hein, avec la nouvelle loi, et donc ce sentiment que c'est les privés qui en profitent le plus. Sans compter que la réforme de la généralisation sociale, la protection sociale, hein, depuis ces 4 dernières années, ce qui est quand même un effort de solidarité collective majeur, eh bien, peine à se traduire concrètement dans le quotidien des gens, parce que quand ils vont dans le système privé, comme le permet la couverture santé, ils sont obligés d'avancer l'argent. Hein, la santé, les remboursements se font après. Donc, ils ont souvent, quand vous gagnez le SMIG au Maroc, vous n'êtes pas en capacité d'avancer l'argent. Donc, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. La complexité de ces manifestations, c'est qu'elles donnent à voir sur ces 5 dernières années où d'un côté, on a des efforts qui ont été faits, mais qui ont été mal faits. Et donc, du coup, cette défaillance de l'action publique, eh bien, elle crée du ressentiment, elle alimente l'idée de promesses non tenues dans un contexte où, on y reviendra peut-être, mais ces 5 dernières années, vous avez eu une dégradation de la situation économique liée au Covid, au choc sanitaire, au choc inflationniste, à des moments de sécheresse très forts. Vous rappeliez les manifestations à cet été dans la vallée
de l'Alsace. Je voudrais vraiment juste faire intervenir Walid Cherkaoui. Excusez-moi Nadia Hachimi Alaoui, comme vous êtes à Rabat, c'est plus difficile de maîtriser le temps qui file très vite. Et je voulais poser à Walid Cherkaoui cette question-là. D'abord, pour rester un tout petit peu dans le domaine de la santé, on entend dans les cortèges, par exemple, prononcer ce mot très souvent, Al-Fassad, la culture de la corruption à la marocaine. Est-ce que ça concerne aussi la santé, les hôpitaux? Pour être admis dans un hôpital le plus vite possible, il faut en passer par là?
Ah oui, ce sentiment, et en plus cette situation, elle se situe dans différentes strates de la société et même dans des sphères autres que celles de la santé. Mais simplement, peut-être pour juste simplifier un peu ce qu'a dit Nadia, et dans un effort de vulgarisation, je dirais juste que jusqu'à la borne qu'elle avance, celle de 2019, les Marocains avaient le sentiment peut-être d'être passés de simples patients à clients. Hein, dans cette logique de privatisation. Aujourd'hui, et vous avez avancé, vous avez cité le nom d'Agdital, eh bien, le médecin se retrouve dans une situation aussi où il passe de simple médecin à salarié de ces groupes. Ce qui fait qu'il y a véritablement une sorte de, voilà, un capitalisme de connivence aussi qui se fait, puisque si on s'amuse à aller voir qui est derrière chaque structure et qui la chapote, eh bien là, on entre dans d'autres logiques.
Plusieurs institutions marocaines ont d'ailleurs déjà alerté sur les dangers de cette libéralisation effrénée du secteur de la santé. La Cour des comptes, la Banque centrale, le Haut Commissariat au plan, le Conseil supérieur de l'éducation pour la scolarité. Aujourd'hui, dans la région Sousse-Massa, dont fait partie Agadir, il n'y a qu'un médecin pour plus de 2400 habitants, contre un médecin pour 850 habitants dans la région de Casablanca, par exemple. Et même si dans cette région, beaucoup d'argent est investi dans l'agriculture, les tomates rouges, les primeurs exportés dans le monde entier, on n'y vit pas nécessairement mieux de ce que racontent les témoignages dans cette région qui, en premier lieu, aimerait pouvoir se faire soigner correctement. Walid Cherkaoui, à quel moment vous êtes investi personnellement dans la section française du groupe de discussion Discord de Gen Z 212?
Eh bien, franchement, c'était quelques jours après ce week-end du 27 au 29 septembre, puisque la première action de la section française de la Gen Z de 112 a eu lieu le week-end du 4 octobre. Hein. Donc il y a eu un rassemblement non loin de l'ambassade du Maroc.
À Paris, dans le 16e arrondissement, c'est pas voilà, très loin d'ici, de la Maison de la Radio.
Tout à fait, et donc on était, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris, à peu près 700 personnes. Et ce qui rassemblait ces 700 personnes, c'était justement les... On l'a entendu d'ailleurs au tout début de l'émission, ces slogans très...
large.
Voilà, éducation, santé, fin de corruption, et puis voilà, justice sociale. Donc c'est ce qui nous a rassemblés. Puis voilà, notre profil était très hétéroclite, très hétérogène. Certains avaient déjà un passé militant, d'autres étaient primo engagés, donc découvraient sur le terrain ce que c'est que de s'engager. Et puis chacun avait son référentiel, son background idéologique.
Et c'est le cas aussi dans les cortèges du Maroc. Lina Benchekor, tout à l'heure dans le Focus, nous parlera des liens entre les grands mouvements de 2011 et celui d'aujourd'hui. Dans un pays comme le Maroc, qui est une monarchie, est-ce que beaucoup visent la chute du régime?
Les jeunes étaient très très lucides, très clairs. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi dans certaines photos. Ce qui était revendiqué, ce qui était demandé, c'était la démission du gouvernement. Hein, il y avait des slogans qui étaient
pas la chute de la monarchie, de la démission du premier ministre.
Non, c'est très clair, c'est très visible. Aranouche. C'est Aranouche, dégage. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les jeunes ont adressé une lettre au roi datée du 3 octobre en lui demandant directement d'intervenir. Donc non, ils ont court-circuité, si vous voulez, le gouvernement pour demander l'intervention du roi. Il n'y a aucune remise en cause dans ce sens de la monarchie.
Sans aller jusqu'à dire qu'ils revendiquent une allégeance à la monarchie, en tout cas, il y a une stratégie de sollicitation du pouvoir royal pour court-circuiter, comme vous dites, le Premier ministre. D'ailleurs, pourquoi lui en particulier, Nadia Hashimi Alaoui, le Premier ministre Azid Aranouche, qui est arrivé à la tête du gouvernement marocain en octobre 2021, qui préside le Rassemblement National des Indépendants, un parti politique de centre-droit, plutôt proche de la royauté, et qui par ailleurs est le maire d'Agadir, épicentre du mouvement. Pourquoi c'est lui en particulier qui est visé? Est-ce que c'est le Premier ministre parce qu'il est Premier ministre, ou c'est aussi lui personnellement parce qu'il est par ailleurs un des hommes les plus riches du pays et à la tête du plus gros consortium du pays, Africa, qui est donc un consortium pétrolier?
Deux choses. Un, parce que vous l'avez rappelé, il symbolise il symbolise par son double positionnement homme d'affaires et homme politique, ce chevauchement des positions, hein, entre des positions de pouvoir et des positions d'accumulation économique. Donc il est la symbolique du conflit d'intérêts, hein, qui, à partir du moment, alors on a un rapport très particulier au conflit d'intérêts au Maroc, à partir du moment où on estime que la personne ne fait pas son boulot, en gros, hein, et c'est cette défaillance de l'action publique qu'on lui attribue, puisqu'il est, il est à la tête du gouvernement depuis 5 ans. Donc, sa position, sa double position, elle est aujourd'hui vue comme inacceptable. Donc, c'est la première des choses sur ce personnage qui déjà avait cristallisé, que souvent on parle de 2011, mais il y a un historique des mouvements sociaux, il y a des savoir-faire des mouvements sociaux. Il y avait eu une forte mobilisation en 2017, un boycott très fort qui est parti sur le net et qui visait justement des grandes marques pour dénoncer ces collisions entre intérêts économiques et intérêts politiques. Donc ça, le Premier ministre le symbolise. Deuxièmement, je crois qu'il faut vraiment circonstancier ces mobilisations et les circonstancier sur ce qui se passe aujourd'hui, pas dans une continuité longue où effectivement les inégalités ont toujours existé au Maroc, mais elles prennent des significations différentes dans chaque contexte historique. Et donc ces 5 dernières années, dans un contexte de dégradation économique du Maroc, avec des promesses et des demandes sociales qui ont été largement entretenues par le gouvernement, il est aussi, il a une conduite de l'action publique depuis ses, depuis qu'il est au pouvoir, très très renfermé et surtout qui a totalement limité les espaces de débat. On le voit bien, plus absolument aucun espace de débat depuis 4-5 ans sur les politiques publiques et encore plus, hein, l'éducation et la santé ont été prises à partie évidemment pour leur dimension asymétrique et inégalitaire, mais c'est aussi des ministères qui, où il a mis des hommes qui sont proches à lui, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Hein. Il y a eu une réforme de l'éducation, par exemple, qui avait été engagée il y a 4 ans, qui avait été l'objet de très fortes mobilisations dans la rue, de coalitions syndicales, de corporations. Et puis, le ministre a été changé alors qu'on pensait que la réforme allait être sur les rails, sans qu'on comprenne pourquoi, par un proche du Premier ministre. Même chose pour la santé. Mmh. Sa conduite même de l'action publique alimente, sa pratique même alimente aussi un rejet.
Alors, une pratique
sur des jeunesses, une jeunesse qui en demande de débat. Hein. C'est surtout ce qui nous a frappé au Maroc.
Une pratique qui exclut les jeunes du débat politique et du débat public, mais aussi des scandales quand l'État marocain, qui a longtemps encadré le prix à la pompe pour l'essence, a levé cette mesure en 2015 parce que ça coûtait très cher à l'État. Les gros groupes pétroliers se sont entendus pour maintenir les prix les plus élevés possibles. C'est même le Conseil de la concurrence qui a lui-même conclu en 2020 à cette entente entre géants du pétrole, y compris donc Africa, le consortium du Premier ministre, mais aussi Total et Shell, qui avait à l'époque imposé des amendes à hauteur de 9% de leur chiffre d'affaires. Entre-temps, le président du Conseil de la concurrence avait été limogé par Mohamed VI, qui l'accusait d'irrégularité dans la procédure. L'affaire dite des 17 milliards, ce que les distributeurs d'hydrocarbures auraient encaissé de profits supplémentaires depuis le désengagement de l'État, selon un rapport parlementaire de 2018. Donc voilà, tous ces dossiers-là, le Premier ministre les traîne avec lui. Le roi, lui, Mohamed VI, ne s'est quasiment jamais exprimé, en tout cas dans les premiers jours du mouvement, jusqu'à, du bout des lèvres, accorder quelques concessions le 11 octobre 2025.
S'agissant de la nouvelle génération de programmes de développement territorial que le gouvernement doit s'atteler à élaborer conformément à nos orientations, nous attendons qu'elle se caractérise par une plus grande célérité et qu'elle produise un impact plus fort. Ce travail doit être mené dans le respect d'une relation gagnant-gagnant entre les zones urbaines et rurales. Il s'agit notamment des questions clés que nous avons définies comme prioritaires, au premier rang desquelles figurent l'encouragement des initiatives locales et des activités économiques, la création d'emplois pour les jeunes, la promotion concrète des secteurs de l'éducation et de la santé, ainsi que la mise à niveau territorial.
Mohamed VI, juste avant un conseil des ministres du 19 ou du 20 octobre, lors duquel il a évoqué quelques mesures qu'il allait prendre. Walid Cherkaoui, comment expliquer d'abord que le roi ait mis tant de temps à répondre si le mouvement, au contraire, s'adresse à lui et fait signe au moins de loyauté envers la monarchie? Pourquoi le roi a mis autant de temps à répondre? Et comment ce silence a été commenté dans les rangs du mouvement?
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une temporalité protestataire, celle des militants, et puis il y en a une autre, celle de l'État. Et les deux ne roulent pas à la même vitesse, si vous voulez. Et historiquement, on peut l'expliquer, on peut le voir, parce que le Maroc, en tout cas le système, le régime politique marocain, n'aime pas être vraiment bousculé et essaye d'imposer sa propre temporalité. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer potentiellement ce délai de réponse qu'on peut observer aussi si on remonte à 2011. Peut-être qu'on le verra avec Lina, mais entre les manifestations du 20 février et le discours du roi en mars 2011, il y a eu quand même à peu près trois semaines comme délai de réponse. Et puis voilà, il y a une première réponse qui est tombée. Donc vous avez parlé de ce Conseil des ministres. grosso modo, les principales mesures qui vont être prises à partir de 2026, en tout cas, c'est ce que va disposer le plan, en tout cas, en suivant la loi de finances de 2026.
Augmentation du budget de la santé, création de 27 000 postes dans le secteur notamment.
Tout à fait, voilà. Donc, dans ces secteurs-là, ceux de la santé et de l'éducation. Voilà. Donc, c'est une première réponse qui est apportée aux mobilisations de ces jeunes. Alors, on peut se poser la question sur... on peut jouer avec des si. S'il n'y avait pas eu de mobilisation dans ces villes, est-ce qu'il y aurait eu une telle réponse? Est-ce qu'il y aurait eu une augmentation dans les dépenses en matière d'éducation et de santé? Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les jeunes vont s'arrêter là?
Est-ce que les jeunes vont s'arrêter là? Notamment, ce mouvement, vous l'avez rappelé, est horizontal, anonyme, c'est difficile de savoir qui parle et d'où. C'est intéressant sur le principe d'avoir un mouvement horizontal, bien sûr, mais la question est de savoir si c'est efficace sur le terrain. Est-ce que aujourd'hui, on a l'impression que les cortèges sont un peu plus épars qu'au début? Comment vous l'expliquez? Je poserai la même question à Nadia Hachimi Alaoui, vue depuis le Maroc, mais vous, que ce soit à Paris ou de ce que vous observez dans les grandes ville marocaine et ailleurs.
Je pense que je me limiterai plutôt à la section Paris française que je connais le mieux. Au début, c'est vrai qu'on était très très hétérogène, très hétéroclite. Maintenant, on est déjà beaucoup moins que ce qu'on était.
Hein, donc il y a eu moins nombreux, vous voulez dire, pas moins hétéroclites.
Il y a eu des partants ordinaires, il y a eu de nouvelles recrues, donc ça va, ça vient. Mais ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quand même, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une appropriation politique. Si au début, les jeunes étaient contre une récupération politique dans le sens partisan du terme, hein, une récupération par des partis tels que le Parti Socialiste Unifié. On peut visionner quelques vidéos au sujet de Nabila Mounib, parlementaire et ex-secrétaire général de ce parti qui s'est vu évincé par les jeunes, donc dans le but d'éviter toute récupération. Aujourd'hui, ce qu'on constate, en tout cas dans cette section, c'est que ce sont des jeunes qui ont un passé militant au sein du 20 février, et puis d'autres jeunes qui ont quand même une casquette politique, et qui le revendiquent d'ailleurs, issus de la gauche radicale.
Par exemple, quand un chercheur, Rachid Achachi, a présenté une forme de projet politique que lui a décrit comme une suite institutionnelle du mouvement Gen Z 212, tout de suite les membres du collectif ont dénoncé une récupération. Nadia Hachimi Alaoui, vous, depuis le Maroc, qu'est-ce que vous en voyez de ce qui semble être une forme d'atténuation du mouvement? Et est-ce que vous l'attribuez, le cas échéant, plutôt aux mesures qui ont été annoncées par le roi, plutôt au fait que certains groupes aussi ont fini par partir, certains dénonçant des propos homophobes, d'autres participants, d'autres plutôt berbères disant qu'il y avait un racisme contre eux. Enfin, il y a eu quand même des dissensions. Est-ce qu'elles suffisent à expliquer le fait que les cortèges ont été un petit peu moins fournis ces derniers temps?
Alors, et elle s'est même quasiment, en tout cas vu du Maroc, ce qui se passe au Maroc, elle s'est quasiment réduite. Deux choses. Un, la difficulté de ce mouvement est liée au fait qu'il n'a pas du tout été pris en charge politiquement, institutionnellement. On a vu un rejet total, à la fois des figures politiques, même si vous l'avez rappelé, il y a eu des effets d'opportunisme, des gens qui ont proposé de créer un parti ou autre, mais il y a eu un rejet total, à la fois de la classe politique. Ça, en gros, c'est pas nouveau et c'est pas propre au Maroc, mais surtout ce qui était frappant, c'était l'absence de membres de la société civile qui jusque-là avaient des figures reconnues. Donc ça nous dit aussi quelque chose de l'affaiblissement de la société civile et de ses intermédiaires. Donc difficile de transformer ça en politique, à un moment donné ça s'essouffle. Et puis deuxième chose, vous parliez de la réponse de la réponse et du rapport au roi. C'est intéressant de voir qu'effectivement à aucun moment il y a eu de confrontation à la monarchie, elle l'a plutôt sollicité. Vous parliez de réponse du roi. La question, c'est qu'on a une nouvelle constitution. Et dans cette nouvelle constitution, il y a aussi, elle a veillé à encadrer la pratique monarchique d'intervention. Les droits politiques, les luttes politiques au Maroc, c'était précisément d'essayer de faire qu'on n'ait plus une institution monarchique qui fait ou défait un gouvernement sans mécanisme institutionnel. Donc toute la complexité était aussi d'une certaine manière celle-là. pour la monarchie, en gros, de dire « je vous ai entendu », mais les mécanismes institutionnels, le discours auquel vous faites référence, qui était le discours au Parlement, n'était pas un discours dédié à une destitution d'un Premier ministre qui a ses propres mécanismes. Et donc ça, je pense que c'est important de répondre à ça. Et deuxièmement, et c'est là tout le paradoxe...
En quelques mots, s'il vous plaît, on arrive à la fin de cette discussion.
Le paradoxe, c'est qu'entre-temps, vous avez eu aussi, et ça rend les manifestations beaucoup plus compliquées, vous avez eu une victoire des footballeurs, des jeunes footballeurs marocains, hein, la génération U20, qui déjà est très rappropriée dans le discours officiel comme la génération Gen Z, et qui a entraîné des liesses dans la rue, et donc qui rend plus des liesses dans la rue de jeunes aussi hétérogènes que vous aviez pu avoir pour ces mobilisations. Donc vous voyez toute la difficulté à pouvoir qualifier, qui rend justement le discours et le slogan un peu compliqué aujourd'hui, mais qui ne veut pas dire que d'autres, ce qu'il y a à retenir, c'est que les étincelles peuvent produire de nouveaux modes de mobilisation.
Comme si cette union sacrée festive après la récente victoire du Maroc à la Coupe du Monde de foot des moins de 20 ans avait au moins pour un temps un peu effacé ces colères-là. Et vous évoquiez la nouvelle constitution qui a encadré un peu différemment les prérogatives du roi Mohamed VI. C'était une réforme, c'est pas une nouvelle constitution, c'était une réforme de 2011 que le roi avait consenti aux acteurs du grand mouvement social de l'époque qui justement, eux, aujourd'hui, forts de cette expérience-là, disent aux jeunes manifestants d'aujourd'hui attention et à la récupération politique et à la façon que la monarchie peut avoir de faire taire un petit peu les voix qui s'opposent.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Et c'est justement le sujet de notre focus, puisque lors du printemps arabe, le mouvement dit du 20 février 2011 au Maroc s'était véritablement structuré au niveau national et avait permis d'obtenir des réformes constitutionnelles. Quelle circulation militante observe-t-on aujourd'hui entre les deux mobilisations à près de 15 années d'écart? Bonjour Lina Benchekor.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'université Aix-Marseille. Votre thèse porte sur le mouvement de 2011. Vous avez l'occasion de rencontrer, de contacter régulièrement des militants de l'époque. Est-ce que beaucoup se sont engagés, réengagés dans les mobilisations en cours?
Oui, alors effectivement, depuis le début du mouvement Gen Z 212, j'ai pu observer de très nombreuses réactions de cette génération 2011. Beaucoup sont sortis dans la rue pour manifester, pour se rassembler avec les jeunes de la Gen Z et participent activement au mouvement. Après, on observe aussi d'autres formes de soutien qui vont être un peu plus en retrait, mais tout aussi essentielles, avec notamment des militants qui sont aujourd'hui au sein des associations des droits humains ou qui sont même avocats et donc qui se sont constitués en legal team pour soutenir les jeunes qui ont été interpellés, ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés, et donc voilà qui font un réel travail à la fois de transmission de l'information que faire quand on est arrêté, mais aussi de défendre ces jeunes quand ils sont arrêtés. Et une autre forme aussi de soutien, ça va être l'analyse politique et le fait que beaucoup de militants se sont aujourd'hui constitués comme des intellectuels, comme des personnes qui commentent, qui réfléchissent à l'actualité et qui vont notamment défendre aussi ce mouvement sur les plateaux télé, dans certaines émissions, que ce soit en ligne ou à la télévision.
Et comme vous parliez de cette sorte d'équipe juridique qui s'est constituée pour défendre les jeunes qui ont été arrêtés récemment dans les cortèges, j'en profite pour glisser que l'Association marocaine des droits de l'homme estime à plus de 1500 personnes le nombre de jeunes poursuivis par la justice, dont un millier placés en détention, 240 ont déjà été condamnés par un tribunal d'Agadir, 39 à des peines comprises entre 6 10 et 15 ans de prison et des centaines d'autres ont écopé de 3 mois, 1 an de prison dans d'autres tribunaux d'après cette association. Est-ce que les militants dont vous nous parlez, ceux de 2011, alors il y en a qui sont plus ou moins jeunes, d'ailleurs certains se considèrent encore comme faisant partie de cette génération, peut-être pas Gen Z comme on l'appelle aujourd'hui, mais ils sont toujours jeunes, ils sont dans les cortèges. Mais les autres, est-ce qu'ils les encouragent à se structurer davantage? Parce que le mouvement de 2011, il était certes horizontal, mais avec des comités, des assemblées générales, il y avait un peu plus quand même.
Oui, c'est sûr, et que dans la génération de 2011, il y a une culture politique qui était largement revendiquée et mise en avant. Et donc effectivement, dans les discussions qu'on peut écouter, il y a voilà, c'est cette idée qu'il ne faut pas rejeter la politique et que ils en font déjà en se mobilisant au sein de ce mouvement. Et là, on le voit de ces dernières semaines, hein, avec un peu un retour vers les locaux des partis politiques, notamment de gauche, pour discuter et inviter les jeunes quand même à rencontrer ces acteurs politiques d'opposition. Et je pense notamment à une figure de la gauche marocaine qui a été invitée par le mouvement Gen Z sur les podcasts Discord, hein, qui sont des discussions qui peuvent aller jusqu'à 2h, 2h30. Et ils ont invité Omar Balafrej, donc qui a été député et qui est une figure qui s'est aujourd'hui retirée de la scène politique, mais qui a été rappelée par la Gen Z pour voilà, penser à la suite, à comment faire de la politique au Maroc aujourd'hui.
Et comment est-ce qu'ils considèrent justement la façon dont ces jeunes militants aujourd'hui s'adressent au roi Mohamed VI, le sollicitent pour court-circuiter le gouvernement, comme nous le disait Walid Cherkaoui tout à l'heure, manière de dire on n'a rien à vous reprocher à vous, le roi, c'est la chute du Premier ministre qu'on veut. Comment ça c'est entendu par ceux que vous suivez depuis 2011?
Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a d'un côté des personnes qui vont être assez critiques de cette manière de court-circuiter hein, les institutions démocratiques. Justement, et ça, Nadia Hashimi l'a très bien rappelé, hein, en 2011, il y a vraiment des revendications, et même avant, des revendications démocratiques pour une monarchie parlementaire réelle. Et puis, aujourd'hui, dans cette manière de court-circuiter le gouvernement, il y a un peu un retour en arrière par rapport à cette position. Et donc certains militants sont assez critiques du fait de s'adresser et de vouloir s'adresser directement au monarque, alors que d'autres, il y a eu notamment une lettre de soutien au mouvement Gen Z qui s'adresse au roi également, et donc qui suit un peu cette même manière hein, finalement de porter les revendications en disant quelque part que c'est toujours le monarque qui détient le pouvoir réel et que qu'il est plus efficace de s'adresser à lui pour voir advenir de réels changements.
Ce qui avait d'ailleurs déjà ces discussions-là, ces débats avaient déjà eu lieu en 2011 quand quelques militants avaient rencontré le roi à l'époque et Mohamed VI avait négocié auprès d'eux, promis une réforme de la Constitution. Beaucoup d'autres membres du mouvement ne voulaient pas entendre parler d'une telle négociation. Ça avait créé beaucoup de débats. Les médias marocains, cette fois, et les différents observateurs du mouvement actuel, est-ce que, là encore, vous notez, Lina Benchekor, des similitudes ou des différences dans la façon dont ils parlent du mouvement, les mots employés en 2011 et aujourd'hui pour parler de ce mouvement?
Oui, je pense que il y a toujours cette idée quand un nouveau mouvement social émerge d'inquiétude et cette question qui revient en permanence qui sont ces jeunes, d'où viennent-ils, avec toujours une idée qu'il y aurait peut-être des traîtres au sein du mouvement, parfois de traîtres à la nation, et donc ça c'est des discours qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux. Et puis voilà cette idée qu'on serait face à une jeunesse qui ne serait absolument pas politisé ou inexpérimenté. Et là-dessus, je pense qu'il faut être très prudent tant qu'on n'a pas de données précises sur les profils de ces jeunes qui participent au rassemblement. On ne sait pas quelles sont leurs formations. Beaucoup sont peut-être passés par des associations, par des mouvements étudiants. Et donc voilà, cette idée d'être face à un mouvement non identifié, non identifiable parce qu'il rejette les partis politiques, c'est un peu une idée qui revient à chaque fois qu'on est face à comme ça des nouveaux mouvements.
Comme donc en 2011, en effet, on avait aussi mis un peu de temps à comprendre les parcours de chacun, le fait que beaucoup étaient passés par exemple par Attaque Maroc ou les petits partis d'extrême gauche ou panarabistes ou encore l'association marocaine des droits de l'homme. Le contexte politique était un petit peu différent aussi en 2011 avec des élections prévues pour le mois de novembre cette année-là et les manifestants pouvaient peut-être un peu plus compter sur la volonté des partis de leur montrer qu'ils prenaient au sérieux leurs revendications comme le parti de la justice et du développement qui s'était plus à l'époque à jouer les intermédiaires. Est-ce que ça, c'est aussi à prendre en compte ce contexte-là qui a changé?
Alors, pour ce qui est de 2011, les élections législatives avaient été des élections anticipées.
D'accord, elles avaient été provoquées.
Ouais, tout à fait. Par le mouvement, justement. Et le mouvement a appelé au boycott des élections tout au long de l'année 2011. Donc, il y avait une volonté d'aller plus loin qu'une simple réforme de la Constitution et de nouvelles élections. L'idée, c'était vraiment de repenser les institutions politiques de manière beaucoup plus radicale, beaucoup plus profonde. Aujourd'hui, il y a toujours cette idée de faire chuter le gouvernement, mais et c'est un peu peut-être le paradoxe de ce mouvement, il y a quand même une distanciation des partis politiques qui est largement partagée et qui pose la question de d'accord, la chute du gouvernement, mais pourquoi à la place et pour voter pour quel parti, étant donné que la majorité des partis politiques sont critiqués par ce même mouvement. Et donc là, ça pose de nombreuses questions.
Et ceci dit, on est à un an des élections législatives au Maroc, donc on pourrait aussi se dire que le Premier ministre aurait intérêt, si on ne parle vraiment que en termes d'intérêt et au-delà de l'humanisme pur et simple, à écouter ces mouvements. Un dernier mot, Lina Benchekor, peut-être ce qui a changé entre 2011 et aujourd'hui, c'est aussi tout simplement et naturellement une question générationnelle. En 2011, les membres du mouvement du 20 février avaient pour beaucoup connu les dernières années du règne de Hassan II, qui est mort en 1999, qui lui parlait, par exemple en 84, il y a eu des grandes manifestations, il parlait des manifestants comme de parasites ou d'animaux. Dans le rapport au pouvoir, à la répression aussi, est-ce que les militants de 2011 sont surpris, admiratifs ou parfois inquiets de voir ce qui est en train de se passer dans les rues?
Oui, tout à fait. Dans les premiers jours du mouvement, il y a eu un émerveillement de beaucoup d'anciens militants de 2011 et même plus âgés face à cette mobilisation de jeunes qui se font arrêter le samedi et qui, juste après avoir été libérés de garde à vue, ressortent dans la rue avec cette espèce de dynamisme et de sang-froid qui ont beaucoup impressionné. Et donc effectivement, dans les premiers jours, on voit une jeunesse qui croit en sa légitimité à être dans la rue, à porter ses revendications d'éducation et de santé. Mais depuis les premières condamnations, il y a aussi une peur qui revient. Et je pense que c'est important d'avoir en tête que ce sont des jeunes qui sortent dans la rue parce qu'ils veulent avoir une vie meilleure, et le risque de l'emprisonnement constitue une peur réelle. On n'est pas face à des militants qui veulent se sacrifier pour la cause, mais qui veulent vivre dans un Maroc plus juste, avec plus d'opportunités.
Merci beaucoup, Lina Benchekor. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université Aix-Marseille. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Et merci beaucoup à nos deux invités, Walid Cherkaoui, doctorant en sciences politiques à l'Institut d'histoire du temps présent. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio pour nous raconter aussi les mobilisations depuis Paris des Marocains de France. Et merci, Nadia Hachimi Alaoui, depuis Rabat, enseignante-chercheuse en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Le Cameroun attend avec une certaine fébrilité les résultats de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel, Catherine, commence à égrener région par région les premiers résultats.
Et au moins 4 personnes ont été tuées dans la capitale économique Douala, annonce le journal du Cameroun. 4 morts dans les manifestations de soutien à l'opposant Issa Tchiroma Bakary.
Au revoir, Paul.
Le Le gouverneur de la région du littoral dans l'ouest du pays dénonce dans les colonnes d'Actu Cameroun des attaques contre des commissariats et gendarmeries, mais un collectif d'avocats camerounais parle, lui, d'arrestations arbitraires des partisans d'Issa Tchiroma Bakary. Celui qui s'est auto-proclamé victorieux face au président sortant Paul Biya, 92 ans, le plus vieux dirigeant en exercice au monde après 43 années passées au pouvoir, rappelle la Deutsche Welle. Paul Biya veut s'arroger un 8e mandat présidentiel, mais le scrutin, il y a 2 semaines, est entaché de nombreuses irrégularités, souligne le quotidien camerounais Le Jour, avec notamment la présence de personnes décédées sur les listes électorales ou des bureaux de vote qui ne sont pas répertoriés sur les listes officielles. Si Cameroun Tribune voit en ce lundi un jour de vérité, avec l'annonce donc des résultats de la présidentielle, des journalistes, des avocats, des écrivains prédisent, eux, le crépuscule du mensonge et de la condescendance. Dans une tribune publiée par le quotidien camerounais Le Jour, ils écrivent que le peuple camerounais est fatigué d'un immobilisme étouffant, de promesses illusoires et d'un mépris insupportable. Le peuple camerounais, assoiffé de renouveau, a massivement accompli son devoir civique avec un message clair: il est temps de tourner la page des 43 années du régime Paul Biya, affirme cette tribune, même si, dénoncent encore les journalistes, avocats et écrivains signataires, l'organisme en charge des élections s'est transformé en machine à trahir pour commettre le plus grand hold-up électoral de l'histoire du Cameroun. L'opposant Issa Tchiroma Bakary compte, lui, sur ses nombreux soutiens intellectuels et militants pour faire tomber le régime Biya, analyse Jeune Afrique. C'est un opportuniste par excellence, selon le rédacteur en chef adjoint de Jeune Afrique.
Il a réussi à faire oublier en partie que ça a été un allié précieux de Paul Biya pendant des années, que en tant que ministre, il a endossé un certain nombre de dérives des gouvernements successifs de Paul Biya. Je dirais que sa politique, en l'occurrence, c'est de l'opportunisme. Lui-même est persuadé de s'être servi de Paul Biya pendant toutes ces années, d'avoir utilisé ses jeux d'alliance pour construire son propre parcours politique, son propre parti politique, et en fait de construire une forme de revanche.
Reste à savoir comment les résultats de la présidentielle au Cameroun seront accueillis. Le pays va-t-il s'embraser, se diviser entre les partisans de Paul Biya et ceux d'Issa Tchiroma Bakary? Le journal du Cameroun craint que les manifestations de ce week-end à Douala, durement réprimées, ne donnent le ton pour les jours à venir.
C'est un conflit que nous continuons à suivre sur France Culture, à la revue de presse, vous, Catherine Dutune, ou à Culture Monde et d'autres émissions. C'est au Soudan. Les paramilitaires aujourd'hui affirment avoir pris le contrôle de la ville d'El Fasher, dans l'ouest du pays.
Même si les résistants locaux parlent de campagne de désinformation, les rebelles se sont emparés du quartier général de l'armée dans la dernière grande ville du Darfour qui leur échappait encore, annonce The Sudan Tribune. La BBC a pu confirmer les photos et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis hier après 18 mois de siège. Les paramilitaires qui encerclent El Fasher bombardent fréquemment l'armée, mais aussi les 300 000 civils pris au piège des combats. Certains habitants sont des déplacés qui pensaient pouvoir trouver refuge à El Fasher, mais la violence et la famine les ont rattrapés, explique le quotidien allemand Die Tageszeitung. Les réserves d'équipement médical, de nourriture, même pour animaux, sont épuisées. Nous en parlions ici même il y a 10 jours. Et les enfants, qui représentent la moitié de la population d'El Fasher, sont particulièrement vulnérables, comme le montre un reportage très éprouvant d'Al Jazeera. Al Jazeera, dont le correspondant Mohamed Ibrahim a été arrêté, rapporte The Sudan Tribune. C'était le dernier journaliste qui envoyait encore des reportages télévisés depuis El Fasher. L'ONU et les États-Unis appellent aujourd'hui à protéger les civils, alors que les paramilitaires sont accusés par Washington d'avoir commis un génocide, rappelle The Sudan Tribune, contre la population non arabe du Darfour.
Enfin, en Suède, des mécaniciens automobiles continuent à s'attaquer à l'une des entreprises les plus riches au monde, Tesla.
2e anniversaire aujourd'hui de ce mouvement social. La grève la plus longue en Suède depuis un siècle, souligne la télévision publique suédoise. Elle a coûté depuis 2 ans 100 millions de couronnes au syndicat IF Metall, soit près de 9 millions d'euros, mais ce n'est rien à côté des enjeux. La grève porte sur une question au cœur de la culture industrielle suédoise: le droit des syndicats à négocier les salaires et les conditions de travail au nom de leurs membres, explique Dagens Industri et la BBC. Un concept de convention collective positive qui sous-tend les relations professionnelles en Suède, mais Tesla veut passer outre et craint que concéder sur ce combat en Suède renforce in fine la position des salariés qui veulent syndiquer Tesla dans des usines de production aux États-Unis ou en Allemagne, explique la BBC, où Tesla emploie des dizaines de milliers de personnes. Un mot encore en ce début de semaine, j'attends vos questions sur cette chronique sur l'actualité internationale pour construire ensemble la revue de presse interactive du samedi. Je vous rappelle l'adresse pour m'écrire, fcrdpi@radiofrance.com.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Quant à nous, dès demain, nous poursuivrons cette série exceptionnellement en 8 épisodes sur les inégalités, la colère universelle provoquée par les inégalités. Ce matin au Maroc, demain nous parlerons de Madagascar, besoin de lumière, besoin d'eau. C'est un des slogans des manifestations. Mercredi en Indonésie, non à une démocratie de privilégiés. Et jeudi au Bangladesh, plus jamais la tyrannie. Dans un instant, les midis de culture.